Il y a des intellectuels, j'en suis un, qui depuis 68 ne veulent plus dialoguer avec la bourgeoisie. En vérité, la chose n'est pas simple. Tout intellectuel a ce que l'on appelle des intérêts idéologiques. Par quoi on entend l'ensemble de ses œuvres qu'il écrit jusqu'à ce jour. Bien que j'ai toujours contesté la bourgeoisie, mes œuvres s'adressent à elle, dans son langage, et au moins dans les plus anciennes, on y trouverait des éléments élites. Je me suis attaché depuis 17 ans à un ouvrage sur Flaubert qui ne saurait intéresser les ouvriers. J'y suis lié, ça veut dire j'ai 67 ans, j'y travaille depuis l'âge de 50 ans et j'y rêvais auparavant. C'est lui qui me rattache à mes lecteurs bourgeois. Par lui, je suis encore bourgeois et le demeurerai tant que je ne l'aurai pas achevé. Cependant, par tout un autre côté de moi, qui refuse mes intérêts idéologiques, je me conteste moi-même comme intellectuel classique et je comprends que si je n'ai pas été récupéré, il s'en est fallu peu. Et dans la mesure où je me conteste, où je refuse d'être un écrivain élitiste qui se prend au sérieux, m'arrive que je me trouve au milieu des hommes qui luttent contre la dictature bourgeoise.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
À 67 ans, Jean-Paul Sartre n'en avait pas encore fini avec sa culpabilité d'enfant de la bourgeoisie, ni avec son malaise d'écrivain élitiste, comme il se définit ici lui-même, alors qu'il se voulait pleinement engagé aux côtés de tous les damnés de la Terre. Cette culpabilité va être, en fait, l'un des ressorts essentiels de sa vie publique, l'une des clés qui permet de comprendre certaines de ses prises de position parmi les plus virulentes sur les pays communistes, sur la décolonisation, sur le terrorisme des années post-68. Mais derrière ces engagements, souvent outranciers, qu'il juge nécessaires eu égard à sa célébrité, un autre Sartre évoque devant quelques rares intimes, le plus souvent des femmes, sa lassitude de la politique et son dégoût de certains de ses écrits. François Nudelman revendique son admiration pour l'auteur de « Qu'est-ce que la littérature ?» ou « L'idiot de la famille ?» Sartrien donc, mais sans que cette amitié philosophique ne lui interdise, comme à tant de membres de cette tribu très susceptible, d'aller chercher par-delà les écrits officiels, ce qui nous permet d'appréhender plus finement l'homme Sartre. Sa rencontre et son travail avec Arlette El-Kaïm, devenue en 1964 la fille adoptive de l'écrivain, lui ont permis d'enregistrer une formidable série pour France Culture diffusée en 2013. Et dans son précédent livre, Le toucher des philosophes, publié en 2008, il nous avait déjà raconté le Sartre musicien. Aujourd'hui, il publie un tout autre Sartre chez Gallimard, portrait pointu et délicat d'un homme qui, sa vie durant, tenta de concilier son goût pour la légèreté avec ce qu'il pensait être son devoir d'écrivain engagé. Bonsoir François Nudelman.
Bonsoir Catherine Evin.
Ça fait toujours plaisir d'entendre cette voix éraillée, difficile à comprendre maintenant aujourd'hui avec le temps, les bandes se sont un peu usées, de ce Sartre qui reste malgré tout quelqu'un qu'on a envie d'aimer. C'est même très curieux puisqu'on sait aujourd'hui, alors on nous sert toujours cette fameuse phrase, avoir plutôt tort avec Sartre que raison avec Aron. Mais ça dit quelque chose de vrai, ça dit que derrière cette voix et ces engagements, il y a une humanité qui nous le rend proche, comme si on percevait des choses que le discours officiel de Sartre ne laisse pas tellement supposer. C'est ce Sartre-là, derrière les mots, qui vous a toujours intéressé.
Oui, tout à fait. Moi aussi, je suis ému de l'entendre, toujours, pourtant, je l'ai beaucoup entendu. Mais cet extrait est magnifique, parce qu'on voit ici vraiment sa complexité, sa torsion. Ce que j'adore chez lui, c'est son absence de complaisance à l'égard de lui-même. Il est toujours tiraillé, bon, ça peut être aussi une névrose, hein, d'être toujours contre soi, de penser contre soi-même. Mais depuis le début de ses premiers textes, c'est-à-dire que même quand il n'est pas encore engagé, lorsqu'on lit ses carnets de la drôle de guerre, il y a une manière de ne pas être bien avec soi-même, de ne pas se satisfaire de ce qu'on est, de toujours vouloir... vouloir se révolutionner, se contester jusqu'au bout. Et ça, c'est magnifique. On connaît tellement de penseurs, d'écrivains qui capitalisent sur ce qu'ils ont gagné, qui sont au fond des assis, même dans leur contestation. Et Sartre, non, jusqu'au bout, on sent cette volonté de se dépasser, de trouver autre chose, de ne pas se reposer sur ce qu'il est. Et ça, c'est magnifique. Alors, effectivement, c'est confirmé par sa vie, la vie qu'il confie, comme vous l'avez dit, à ses amis I, ses amis E. Et puis, ça se retrouve, si vous voulez, dans les mots, effectivement. C'est-à-dire que quand on sait ça, on lit différemment Sartre. Parce que vous avez cité, par exemple, Qu'est-ce que la littérature, qui est un texte un peu un manifeste, où Sartre force les choses et qui est très contestable et contesté. Bon. Mais quand on sait évidemment quelle est la part d'investissement psychique qu'il y a, et puis aussi le contexte de la libération, le fait qu'il veut absolument affirmer la littérature engagée, il veut marquer son époque, il veut réquisitionner tous les écrivains en profit de la politique, quand on sait ensuite qui est Sartre, on peut pas le lire au premier degré. On entend des choses, comme vous dites, derrière les mots, on entend qu'il y a un forçage et que ce Sartre-là n'est qu'une des facettes de l'écrivain.
Mais vous venez, François Nudelman, de prononcer le mot « libération ». C'est effectivement après la guerre que Sartre devient Sartre. Avant, il y a un autre Sartre, et d'ailleurs il le dit très clairement, et quand on lit ses carnets de la Drôle de guerre, on le sent. On va écouter un extrait d'une émission de Michel Contaf sur France Culture en 1975.
Il y a deux moments très nets de ma vie, au point que je suis dans le second et je ne me reconnais plus très bien dans le premier. C'est avant la guerre et après. La guerre a vraiment divisé ma vie en deux. Elle est arrivée d'ailleurs en 39, par conséquent j'avais 34 ans. Elle a fini à 40, quand j'avais 40 ans. Ça a été vraiment le passage de la jeunesse à l'âge mûr. Et en même temps, ça m'a révélé certains aspects de moi-même et du monde. Par exemple, c'est là que j'ai connu l'aliénation profonde, c'était la captivité. C'est là que j'ai connu aussi le rapport aux gens, l'ennemi réel, alors pas l'ennemi simplement, qui dit dans la société que vous êtes un mauvais ou un chien. Non, l'ennemi qui peut vous emmener en tôle. Et puis j'ai connu aussi, là, opprimé, et abattu de toutes parts, mais existant quand même encore, l'ordre social, la société démocratique, dans la mesure où précisément elle était opprimée, détruite, et où nous luttions pour lui conserver sa valeur, pour espérer qu'après la guerre, elle renaîtrait. C'est là, si vous voulez, que je suis passé de l'individualisme et de l'individu pur d'avant la guerre, au social, en particulier au socialisme.
François Nudelman, on comprend bien que la captivité, l'occupation, l'expérience de la guerre, ça a modifié beaucoup de la pensée des intellectuels de cette époque. Mais il y a quelque chose que on sent bien, en dépit de notre affection pour Sartre, c'est que ce qu'il a fait, ou plutôt ce qu'il n'a pas fait pendant l'occupation, et peut-être aussi le ressort de cet autre Sartre culpabilisé qui sort de la guerre. Ce que Vladimir Jankélévitch a très nettement pointé, Sartre, Beauvoir et leurs amis ont fait une résistance en carton. Et donc, effectivement, quand il a découvert ce contre quoi il n'avait pas vraiment lutté, on peut comprendre que Sartre est basculé dans l'engagement politique le plus extrême.
Oui, ça c'est effectivement la thèse de Jankélévitch, qui est une thèse un peu psychologisante, mais qui a sa légitimité. Je suis frappé en entendant l'extrait que Sartre en fait a toujours voulu expliquer sa propre vie, constituer lui-même sa propre temporalisation, c'est-à-dire voilà, ma vie, je vous l'explique. Il explique tout le temps qu'il est en avance, qu'il n'est plus ce qu'il était. Bien sûr, c'est un schéma explicatif très important, parce qu'on se dit, bah oui, ça, on comprend tout. Sartre était individualiste, libertaire, anarchiste, et puis tout d'un coup, voilà, il passe au marxisme, au socialisme, il le dit, voilà. ça permet de comprendre, mais c'est beaucoup trop simple. Et je trouve pas qu'il faut pas se laisser au piège, de manière générale, de ce que disent les écrivains et les penseurs sur eux-mêmes. Surtout quand ils ont le besoin de l'affirmer aussi nettement, comme si tout d'un coup il y avait un avant et un après. Et vous le rappelez, Kathleen Eva, effectivement, que pendant l'occupation, Sartre a été résistant, certes, de cœur, hein, mais bon, effectivement, comme la plupart des Français et des Françaises, il a continué à enseigner, à écrire, à travailler. Bon. Donc, tout ça pour dire que Sartre se construit quand même une image post-guerre, et que il dit voilà, ça y est, maintenant je ne suis plus le même, mais c'est faux. C'est-à-dire que le Sartre léger demeure jusqu'à la fin, jusqu'en 1980. Ce Sartre qui prend la poudre d'escampette, qui se réserve des moments de légèreté, parce que pendant sa captivité, il dit voilà, déjà il dit je suis trop léger, hein. Il faudrait être d'argile et je le suis de vent. Et donc Sartre effectivement reste quand même un homme de vent, comme il a toujours été, même s'il chausse des semelles de plomb. Les semelles de plomb de la politique, il va en faire vraiment l'intellectuel combinatoire qui explique effectivement que quand on refuse de prendre position, ben on prend position pour le dominant, et qui va effectivement adopter la cause de tous les damnés de la Terre, cette espèce de mythologie de l'intellectuel au service des dominés. Eh bien, cette mythologie, elle est démentie par la vie de Sartre, par aussi des écrits mineurs, mais d'ailleurs il y en a un qu'il n'a pas abandonné, et vous l'avez signalé par l'extrait que vous avez passé au début, c'est le Flaubert. C'est-à-dire que bon, au moment même où il est là dans les rues, il voyage, il rencontre tous les plus grands dirigeants révolutionnaires du monde, Castro, Guevara, Tito, voilà, ça ne l'a pas empêché de continuer son projet Flaubert, d'écrire sur un écrivain bourgeois, de ne pas écrire pour le peuple comme le lui demandaient les militants révolutionnaires qui voulaient qu'il écrive des romans populaires pour le peuple. Non, il a tenu bon, et il a écrit 3000 pages publiées, même il y en a encore plus qui ne sont pas publiées, plein de brouillons, et il a tenu à ce projet bourgeois parce que voilà, il s'expliquait avec Madame Bovary, avec ce roman de son enfance. Au fond, il demeure toujours ce Sartre attiré par la rêverie, attiré par la mélancolie, attiré par la musique, attiré par par l'imagination. Il est toujours là, ce Sartre.
Alors justement, comme il est toujours là et qu'il sent bien que ce Sartre léger est toujours là, est-ce que vous qui connaissez bien tous ces écrits publiés, non publiés, tous ces brouillons, est-ce qu'on peut dire que, c'est une thèse qu'on trouve aussi dans votre livre, Un tout autre Sartre, que Sartre était quelqu'un au fond d'assez influençable et qu'en fonction des gens qu'il rencontrait, on peut voir dans ses écrits l'influence d'un Nizan, l'influence d'un Frantz Fanon, à la fin de sa vie, hélas, l'influence de Benny Lévy. Je dis hélas parce que, comme beaucoup de gens, on a trouvé ça un peu étrange que tout d'un coup, il devienne une sorte de théologien du judaïsme. Et au fond, l'influence de Simone de Beauvoir. Est-ce qu'on peut dire que Simone de Beauvoir était le surmoi de Sartre? Est-ce que, à force de le voir, justement, en penseur engagé, le plus grand de sa génération, elle ne l'obligeait pas à être ainsi?
Alors oui, le Beauvoir surmoi de Sartre, je pense que c'est assez juste. Mais bon, son ça, de temps en temps, s'exprimait ailleurs. Cela dit, il faut quand même rappeler quand même que Beauvoir a été l'interlocutrice majeure extraordinaire et que, effectivement, Sartre ne serait sans doute pas Sartre sans elle, qu'il lui a fait relire tous ses manuscrits. C'était quand même l'interlocutrice majeure, sauf effectivement à la fin où il a pris un petit peu de liberté, et seuls les textes qu'il a écrits avec Benny Lévy, ses dialogues avec Benny Lévy, ont échappé à son contrôle. Voilà. Alors je reviens à ce que vous dites. Je ne partagerai pas complètement le terme de influençable, parce que je crois que dans la vie, tout le monde pense par relation. Hein, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le collatéral, ce n'est pas si secondaire. Parce qu'au fond, on pourrait avoir l'impression que voilà, l'écrivain, il est là, le penseur, il est là, il a tout en lui, et puis ça se développe. Et puis, bon, de temps en temps, il rencontre des gens, il est un peu influencé. Non, moi, je pense que dès le départ, Sartre découvre la phénoménologie grâce à Raymond Aron. Donc, il pense ensuite avec Husserl. Il pense, mais bon, ensuite, il épuise Husserl, et puis il passe à autre chose. Et puis, effectivement, il y a Nizan, il y a le communisme, et puis aussi Arlette El-Kaïm, qui vont l'amener à vivre penser, rêver, écrire différemment. Donc moi, je crois qu'on pense par relation. Hein. Donc certes, c'est pas une question de d'être ce qu'il est, puis tout d'un coup dérivant vers celle qui l'influence. C'est plutôt quelqu'un qui, effectivement, a cette disponibilité d'esprit extraordinaire qui l'amène à s'intéresser à des choses aussi diverses, parce qu'il peut s'intéresser aussi bien au racisme dans le sud des États-Unis qu'au jazz, qu'au roman américain, qu'à la lutte révolutionnaire dans différents pays. Donc cette disponibilité de Sartre, elle est exceptionnelle. C'est pour ça que c'est un homme, je sais pas comment dire, un homme multiple. Et une des preuves que je dois donner de ce que j'avance, c'est que quand vous regardez les œuvres de Sartre, comme la plupart des écrivains, vous pourrez dire, bon, il y a un style Sartre. Ben non, il n'y a pas de style Sartre. Il y a des styles de Sartre, c'est-à-dire que l'écrivain qui écrit La Nausée, celui qui écrit Les Chemins de la Liberté, influencé par le roman américain, par Dos Passos, par Faulkner, celui qui écrit Les Mots, oh là, c'est vraiment là, le style extrêmement classique, eh bien, finalement, on se dit, Sartre, il expérimente, c'est un expérimentateur, et il adore d'ailleurs comme en musique, il va composer à la manière d'eux, ça n'empêche pas d'avoir une pensée authentique, hein. Mais voilà, il est disponible à toujours d'autres pensées, d'autres styles, d'autres imaginaires, c'est véritablement une pensée avec, hein, que Sartre a construite en se renouvelant continuellement au gré de ses rencontres.
Alors parmi ses nombreuses implications politiques, il y en a bien sûr certaines qui ne lui ont jamais été pardonnées. C'est tout ce qu'il a pu dire sur l'URSS, sur Cuba, sur la Chine. On va l'écouter en 75 justement répondre à Conta. Oui, alors sur l'URSS, eh bien, en fait...
J'ai l'impression que la politique est dans ce qu'elle est. J'ai dû soutenir des pensées dont je n'étais pas très sûr. Mais je ne crois pas avoir jamais soutenu des mensonges.
À quel moment est-ce que, pour vous, alors l'évidence de l'échec de l'Union soviétique vous est apparue?
Assez tôt, après la guerre.
Ah, dans ce cas, vous ne l'avez pas dit.
Si, je l'ai dit dans... qu'est-ce que la littérature?
Ah non, ce que vous mettiez en cause, c'était la politique des communistes staliniens français.
Oui, mais...
C'était pas...
Ça avait des conséquences quand même.
Ah oui, bah vous ne l'étiez pas.
Oui, mais les premières fois que tu as été en URSS, tu croyais encore qu'il y avait des trucs que...
La première fois était insupportable.
Oui.
Ah, j'ai menti, oui. Là, j'ai fait une un article que Co a fini d'ailleurs. Et
dans Libération.
Oui.
À l'époque.
Et j'ai dit en effet des choses aimable sur l'URSS.
Que vous ne pensiez pas.
Que je ne pensais pas. Je l'ai fait parce que je pensais que quand on venait d'être invité, on ne pouvait pas remuer de la merde sur l'inviteur. Alors j'ai fait des choses un peu gentilles. Il était malade.
Oui.
Je revenais de l'hôpital.
Oui, on le sent bien, il est un peu mal à l'aise pour en parler, mais en fait, sur l'Union soviétique, il y avait surtout une femme qui était là-bas, sa traductrice, Lena Zonina, pour laquelle il avait un grand coup de cœur et qu'il ne voulait pas compromettre.
Oui, c'est une passion. Alors, c'est l'envers anecdotique et privé de toutes ces affaires et de tous ces voyages absolument... Oui, inadmissible, hein, de cette complaisance de Sartre à l'égard du totalitarisme de l'URSS. Bon, parce que faut rappeler qu'il a été compagnon de route du Parti communiste du 52 à 56 et qu'à partir de 56, en principe, c'est-à-dire l'invasion de la Hongrie et la répression de la révolution hongroise par l'Union soviétique, à partir de là, en principe, Sartre, voilà, c'est fini. Et pourtant, il a continué parce que effectivement, il avait aussi cette relation et c'est presque du vaudeville quand, par exemple, Sartre essaye de faire venir Lena Zonina, pour laquelle il a une grande passion, la faire venir en France et de contourner la censure. Voilà, il invente des prétextes comme, par exemple, construire à l'UNESCO des relations Est-Ouest. Quand on sait effectivement l'envers du décor, c'est peu glorieux. Mais bon, ça a donné quand même ça a donné sa conférence sur Kierkegaard à l'UNESCO, puisque c'était un peu la monnaie d'échange pour obtenir de René Maheu qu'il organise effectivement quelque chose sur le dialogue Est-Ouest et qui lui permettait de faire venir Lena Zonina. Alors ce sont des raisons privées, mais malgré tout, il faut bien dire aussi que Sartre, s'est adonné quand même à cette image de l'intellectuel qui doit, comme il disait, pousser son cri mensuel ou son cri trimestriel. Donc il est là dans son rôle, et c'est-à-dire qu'il est vraiment dans la mauvaise foi. Lui-même qui a théorisé la mauvaise foi, il est dans une mauvaise foi qui fait que, ouais, il dit voilà, je joue mon rôle, je joue mon personnage, donc je dois pousser mon cri. Et effectivement, ça l'amène à défendre des choses indéfendables. Some of these days, you're gonna miss me, honey. Some of these days, you're gonna feel so lonely. You miss my hugging, gonna miss my kissing, gonna miss me, honey. When I'm away, you feel so lonely, just for me only. But you know, honey, you've had your way. And when you leave me, you know it'll be. Some of these days, boo doo boo boo, boo doo dee doo dee doo doo da, boo doo doo boo, boo doo dee doo dee doo doo da, boo dee doo dee doo boo wee, boo pe doo dee boo pe doo dee.
You're gonna miss me in a thousand ways. Hey, Daddy, remember what I say. Some of these days, I say when you leave me, gonna grieve me. Remember when you're all alone on the shelf, ain't got nobody but yourself. Can't drink those Bloody Marys by yourself.
Vagabonde sur France Inter.
Mes rapports avec les femmes ont toujours été au mieux. Parce que je pense, les femmes étant exactement les égales des hommes, je pense que le rapport sexuel proprement dit permet plus facilement que l'objectif et le subjectif soient ensemble donnés. Je pense que les rapports qu'on a avec une femme, même d'ailleurs si on ne couche pas avec elle, mais si on l'a fait ou si on aurait pu le faire, c'est toujours différent. D'abord, il y a un langage qui n'est pas la parole, qui est le langage des mains, le langage des visages. Je ne parle pas du langage sexuel proprement dit. Et ce langage est là. Il veut dire des tas de choses qui seraient difficiles à développer avec le langage. Et puis ensuite, le langage même, c'est un langage qui vient du plus profond, qui vient du sexe, quand c'est le rapport amoureux. Et quand ce n'est pas tout à fait le rapport amoureux, quand c'est un rapport d'amitié, mais n'excluant pas l'amour. Alors je pense qu'il vient du plus profond, soi-même du sexe. Et qu'alors, même pour dire des choses insignifiantes, la totalité de ce qu'on est là.
François Nudelman, dans cet extrait, Jean-Paul Sartre emploie le mot qui, à mon sens, est probablement celui qui exprime le mieux sa relation aux femmes, c'est amitié. C'était vraiment l'ami des femmes. Alors, amitié amoureuse, bien sûr, selon Simone de Beauvoir, amitié sexuelle, bof, elle n'était pas très convaincue par la sexualité de Sartre. Mais en tout cas, cette amitié qui nous a permis d'avoir toutes ces correspondances avec toutes ces amoureuses, et surtout d'avoir le travail d'Arlette El-Gaïm sur lequel vous vous basez pour travailler sur Sartre encore aujourd'hui. Une relation très particulière avec Arlette El-Gaïm. D'abord parce qu'il l'a adoptée en 1964 et parce qu'elle était très différente de ses amoureuses habituelles. Elle était discrète, elle l'est restée toujours, contrairement aux autres qui ont à chaque fois voulu s'approprier une partie du cadavre, hein, toujours. Elle, c'est quelqu'un qui a travaillé sur le long terme, en profondeur, et elle a une mine d'archives, notamment filmées aussi, sur lesquelles vous vous êtes appuyé. Racontez-nous un peu ce voyage dans les archives d'Arlette El-Gaïm.
En fait, j'ai rencontré Arlette El-Gaïm à la suite de mon livre sur la pratique musicale de Sartre. Pour moi, c'était des intuitions. Je m'étais fondé simplement sur une petite vidéo où je voyais Sartre au piano. Et donc, ça m'avait donné l'idée d'un autre Sartre. Et puis voilà. Alors après, donc je crois qu'elle a apprécié mon livre. On s'est rencontrés comme ça. Et puis, elle m'a dit, ben oui, en effet, il y a tout autre Sartre à découvrir. Et c'est cette amitié avec elle qui m'a permis de comprendre dans ses témoignages que Sartre avait des intérêts autres que peut-être que ceux les plus évidents de sa politique officielle. Donc ce Sartre léger, j'ai l'impression que, bon, il ne s'est pas bien sûr exprimé qu'avec Arlette, mais particulièrement avec Arlette. Par exemple, parmi des tas de facettes du personnage, comme celle de son goût, de la pitrerie, etc. Mais les voyages.
C'est ça qui est très frappant. Voilà.
Sartre,
il fait du tourisme.
Oui, c'est ça, il fait du tourisme, alors même qu'il a écrit un livre contre le tourisme. Mais au fond, c'est ce que je veux dire dans ce livre, c'est que ce goût des voyages le rend beaucoup plus proche de Stendhal que de Marx, au fond. Et c'est ça, au fond, le but de mon livre, c'est de montrer... Non pas qu'il était loin de Marx, mais qu'il était aussi très proche de Stendhal. C'était un modèle pour lui. Et alors avec Arlette El-Gaïm, vous rappelez effectivement combien cette relation était étonnante, parce qu'elle n'était pas liée sur une complicité intellectuelle de départ, même si Arlette El-Gaïm a été intellectuellement celle qui a géré magnifiquement les manuscrits de Sartre. Mais cette petite juive de Constantine qui débarque à Paris, écrit une petite lettre comme ça, au hasard, qu'elle lance à la rue Bonaparte pour discuter avec Sartre, bon, c'est pas une militante, c'est pas une actrice qui veut un rôle. Donc, il se crée quelque chose d'étonnant. En plus, au moment de la guerre d'Algérie aussi, c'est pas évident. Alors, effectivement, il y a dans cette relation une affinité tout à fait inattendue et qui fait que Sartre développe dans son amitié avec Arlette. Il lui dit, je veux te faire découvrir tous les pays de la Méditerranée puisque tu peux pas revenir en Algérie. On va voyager, on va aller partout, en Grèce, en Italie bien sûr, ça, Sartre est un dicte de l'Italie, mais notamment même l'Espagne. Je sais préciser ça parce que l'époque même où
Franco.
Là, tout intellectuel qui devait se respecter boycottait l'Espagne de Franco, il est allé en douce, hein, en cachant à tout le monde.
Simone surtout.
Oui. Et il est parti, ils sont allés en Andalousie, et donc il y a effectivement des vidéos tout à fait touchantes tranchante où on voit Sartre dans l'Alhambra avec Arlette. Hein. Et là, c'est un Sartre voyageur, léger, touriste, au sens le plus ordinaire du terme, qu'on découvre. Donc, c'est vrai qu'avec elle, il y a toute une série de facettes étonnantes de Sartre qui sont restées officieuses. Mais on peut comprendre certains écrits, on peut relire des textes comme
La
Reine Albemarle, exactement, et d'autres textes, en se disant, voilà, tiens, il y a des idées, un psychisme, un imaginaire qui s'est investi là et qui vient de ses escapades. Hein. C'est-à-dire, il vient de son côté troubadour. Il dit, c'est à Michel Vian qui dit ça, mais il dit, voilà, j'aimerais être un troubadour.
Comme Flaubert.
On n'imagine pas Sartre en troubadour, on l'imagine plutôt en militant. Hein. Eh bien non, il y a ce côté troubadour.
Et d'ailleurs, dans Troubadour, il y a forcément la musique, oui. Et l'un des ponts de sa vie privée avec Arlette El-Kaïm, c'est ce bonheur qu'il a plusieurs fois par semaine à se rendre chez elle, rue de l'Ambre, pour tapoter du piano et même chanter. Oui. On les écoute justement parler de cela.
Vous voyez, la musique, ces derniers temps, enfin avant mes accidents physiques, occupait bien 4 heures de ma journée. Oui. Et maintenant, de nouveau, 4 heures, quelquefois davantage. J'en joue l'après-midi. C'est-à-dire, j'ouvre la radio. Et le soir, je peux en jouer lors du phono chez Simone de Beauvoir. Alors, c'est évidemment plus la même chose. La musique que j'entends jouer et la musique que je jouais. Une petite chose que j'avais que je n'ai plus. Du moment qu'il reste la possibilité d'entendre.
Mais vous vous sentiriez vraiment privé?
Ah oui, considérablement. C'est vraiment quelque chose qui est dans ma vie. C'est ça. Ça joue un rôle.
Vous n'avez jamais composé?
Si. J'ai même composé une sonate qui est écrite.
Ah oui?
Ah oui,
bon? Oui, mais je ne sais plus, oui. Je crois que le castor là encore.
Et qui ressemblait à quoi?
Je ne sais même plus.
Après avoir joué l'après-midi, quelquefois il composait. Faisait des petites improvisations.
Oui.
Mais dans quel style?
Mais bien.
Plutôt Schumann, Chopin ou...
Curieusement, non, ça ressemblait un peu à... À quoi? À plutôt l'époque de Debussy.
Oui, c'est un peu...
Là, vous savez ça, vous n'avez pas parlé de la musique française.
Debussy, j'aime beaucoup.
Ravel aussi.
Voilà, le goût de Sartre en musique, c'est absolument charmant.
C'est charmant. Et alors, je peux vous dire, parce que je les ai écoutés, il y a une centaine d'heures d'enregistrement privé d'Arlette et de Sartre. Et c'est étonnant, c'est-à-dire qu'on entend Sartre chanter. Et alors, c'est pareil aussi à la manière d'eux. C'est-à-dire qu'il peut chanter aussi bien du Fauré que de l'opéra de Katsu à la Brecht, de composer, de jouer avec elle, des airs baroques du XVIIIe siècle, tout. Il adore mimer. Bien sûr, il y a aussi, ça c'est plus connu, le Faust de Gounod. Mais l'entendre vraiment jouer de manière très lyrique, outrée, expressionniste, ou ne serait-ce que Fauré. On imagine mal quand même Sartre chanter une mélodie de Fauré, n'est-ce pas?
Ben oui, ça fait partie de ses multiples... Jardin secret.
C'est étonnant. Ça veut dire que voilà, je pense aussi, il expérimentait des affects, une psyché. Il s'amusait. Bon, c'était aussi parfois pour faire le pitre. Mais il y a une. Je peux vous dire, moi, ce qui m'a énormément touché en écoutant ces heures et ces heures d'enregistrement, c'est la légèreté et le bonheur. Il y a un bonheur.
Le bonheur.
Qu'est-ce que ça s'entend? C'est un bonheur. Quand on pense à, voilà, vous avez commencé avec un extrait où il est déchiré lui-même, on se dit, mais oh là là, mais ça doit pas être drôle d'être dans le corps de Sartre, dans la tête de Sartre, vraiment. Hein. Et là, tout d'un coup, tout se libère dans le chant, le piano, il y a une gaieté. C'est effectivement, je crois, peut-être un des rares domaines où Sartre s'est accordé du bonheur.
Alors ce bonheur justement, c'est avec Arlette El-Kaïm qui a été regardée vraiment de travers par la tribu sartrienne et Beauvoir quand elle est arrivée et que voilà, en plus elle avait le droit moral sur ses œuvres, donc c'était très compliqué à gérer pour les autres. Mais on sent bien, on va écouter un autre extrait des interviews de Michel Contat en 1975, c'est ce fameux domaine de l'argent. On sait que Sartre distribuait les billets un peu à tout le monde, qu'il faisait vivre beaucoup de ses amoureuses et que l'argent n'a jamais été un problème pour lui. On l'entend dans ce passage savoureux avec Arlette El-Kaïm.
Tu sais ce que j'ai fait de mon argent, tu le sais aussi bien que moi. Mais qu'est-ce que j'en ai fait?
Il me semble que le plus que tu en dépenses, c'est dans les voyages.
Oui.
Et il me semble aussi que là, il y a une espèce de peur de manquer qui augmente quand tu es en voyage et que tu ne prends jamais... Tu ne calcules pas vraiment, mais tu prends bien le triple de ce que tu peux... Enfin, avant surtout. Maintenant, tu en prends moins, tu en as moins.
Oui.
Mais avant, tu en prenais des sommes assez grandes. Mmh. Et comme si on risquait d'avoir, comme disait ta grand-mère, ton grand-père, je ne sais pas si tu casses une vitre,
ouais.
Sur toi. Alors, tu n'en prenais pas pour le voyage, mais tu en prenais vraiment comme s'il pouvait y arriver toutes sortes d'imprévus bizarres.
Tu as raison.
Bizarre. Mmh.
Mmh. Et m'avait pensé en effet une chose, la peur de manquer. Mmh. Mmh. Ça existe.
Par exemple, depuis 1945, vous n'avez plus de soucis d'argent. En tout cas,
non. Non, j'en ai quand même. Ma mère m'a donné 12 millions pour payer mes impôts une fois. Puis j'ai eu des périodes où je n'avais pas bon.
Est-ce que vous pensez que ces rapports d'argent sont significatifs et que si on les connaissait exactement, on les interprétait adroitement, on trouverait une vérité sur vous que vous ne soupçonnez pas tellement?
Je ne crois pas, parce que le fait est que je n'ai jamais traité l'argent pour sa valeur d'argent. Je n'ai jamais utilisé pour acheter des actions, pour acheter quelque chose de durable.
Il est infiniment sympathique, cet homme.
Tout à fait. Et on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas un propriétaire. Il ne thésaurise pas. Pour lui, l'argent, c'est bien parce que ça circule. Bon, il y a bien sûr le plaisir de donner, hein. Mais vraiment, pour lui, voilà, c'est fluide. Et d'ailleurs, bon, je trouve que quand même, c'est bien que ces questions-là soient posées parce que il y a une espèce de pudeur, particulièrement en France, quand il s'agit des écrivains ou des philosophes. Ça, c'est des sujets tabous. C'est-à-dire, la sexualité et l'argent, on n'en parle jamais. Et puis, voilà, lui, il en parle très, très librement, comme de la sexualité aussi. Donc pour dire bah oui, peut-être effectivement c'est la peur de manquer, peut-être c'est ma famille, etc. Mais en tout cas effectivement il y a un rapport très décomplexé avec l'argent, et pourtant venant d'une famille bon, où la morale était assez lourde concernant cette question de l'argent, et cette espèce de oui c'est ça de fluidité de celui qui ne veut pas être attaché, enfermé dans des biens, et de fait il n'a jamais rien possédé.
Eh bien, c'est toujours un plaisir de parler avec vous, François Nudelman, et surtout de Sartre, je dois dire. Rassurez-moi, il y a encore beaucoup de textes ou de vidéos inédites sur lesquelles on pourra apprendre
énormément
des choses formidables. Eh bien, merci à vous, François Nudelman. Je rappelle qu'un tout autre Sartre vient de paraître chez Gallimard, à peu près en même temps que la parution de Situation 6. Ce sont les textes qui vont de mai 58 à octobre 64, donc Dieu sait s'il s'est passé des choses à ce moment-là, dans le monde et en France, et évidemment toujours chez Gallimard. Merci à vous, au revoir.
Merci.